RMC.
Grand Plateau.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. Trois succès d'étape, un classement général dans la poche et surtout une victoire par KO. Ce critérium du Dauphiné a comblé le roi Poggi, Tadej Pogacar, qui en l'espace d'un petit week-end dans les Alpes a assommé la concurrence et donné la migraine à tous les amoureux du Tour qui se demandent bien si la grande boucle à venir ne serait pas déjà jouée d'avance. Et aujourd'hui dans le Grand Plateau, eh bien nous allons tenter de nous redonner un peu de morale, d'essayer de trouver des raisons de croire en un Tour à suspense. Pas facile à trouver ces arguments, il faut bien se l'avouer, mais on va s'atteler à la tâche. Un critérium conclu, et ça file la banane, par une victoire française. Lenny Martin, le petit prodige de la Bahrain Victorious, est allé chercher un magnifique succès au Mont-Cenis qui lui a fait oublier une semaine délicate. En revanche, la semaine a été magnifique, quasiment du début jusqu'à la fin ou presque. Pour Paul Sexas, qui faisait ses grands débuts sur une course par étape World Tour, et quel début, il termine 8e et nous remplit d'espoir pour la suite. Désespoir, on en fonde également sur d'autres coureurs français, dont Louis Barré, membre de la formation Intermarché Wanty, qui a pris une très belle saison de classique, confirme sur les courses par étape qu'il faudra désormais compter sur lui, notamment sur le prochain Tour de France auquel il participera pour la première fois. Il sera notre invité en fin de podcast, et pour évoquer cette belle actualité cycliste, l'équipe de Grand Plateau en format réduit aujourd'hui. Ah ben oui, si vous voulez, c'est la sélection pour le Tour qui est en train de se jouer. Jérôme Pinault est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Et François Delataille également avec nous. François,
salut, on aimerait
bien t'avoir avec nous sur le Tour un de ces jours.
J'aimerais bien être avec vous. Ouais.
C'est pas mal ça. Hein. Lundi dernier, dans ce même podcast, rappelez-vous, nous étions pleins d'espoir. Nous n'avions qu'une hâte, voir les trois fantastiques à l'œuvre, savoir si Vingegaard, malgré son manque de compétition, pourrait rivaliser, en connaître un peu plus sur Remco et ses fameux kilos envolés dont on nous disait qu'ils allaient lui permettre de suivre le rythme du néo-cannibale. Eh bien, ces réponses, on les a eues. C'est peut-être pas forcément celle que l'on espérait.
Il ne peut pas rester tranquille, Tadej Pogacar, même avec 43 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Attaque de Tadej Pogacar en direction de Valmenier.
C'est la deuxième lame, il est en train de le punir.
Hier, par exemple, je l'ai vu dans l'étape, avec son maillot de leader sur le dos, il avait son coéquipier qui roulait.
Il est
descendu à la voiture chercher des bidons pour les apporter à son coéquipier.
Non mais
il charrie.
Il lève les bras, Tadej Pogacar, 98e victoire en carrière pour Tadej Pogacar, impérial encore aujourd'hui après son attaque dans la montée jusqu'à Valmenier.
La réalité de Poggi, ses équipiers commencent à rouler à bloc, asphyxient la concurrence avant que le petit gars au maillot arc-en-ciel assis sur sa selle et sans se retourner ne serait-ce qu'une seconde décide d'envoyer les watts, d'appuyer sur les pédales et de dégoûter tous ses rivaux.
C'est que Pogacar il est toujours en forme.
Vingegaard et Pogacar qui vont donc terminer ensemble. Cette fois-ci, Pogacar n'a pas voulu humilier son adversaire, n'a pas voulu lui mettre une nouvelle trempe comme il l'avait fait hier et avant-hier.
Lui, il est exceptionnel, il est bon sur tous les terrains.
Ah oui, ça, il est bon sur tous les terrains. On en a eu déjà un petit aperçu depuis le début de la saison. On en parlera tout à l'heure. Il considère cette saison sans doute comme la plus belle de sa carrière, Pogacar. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Et bon, on attend évidemment de savoir s'il remportera le Tour de France pour se faire un avis définitif. Pogacar qui, malgré tout, a connu un petit cafouillage dans ce critérium du Dauphiné. C'était mercredi dernier dans le chrono. Ça nous avait mis un peu l'eau à la bouche. Hein. Et puis, bah, finalement, il a remis les pendules à l'heure durant le week-end alpestre. Deux victoires d'étape, une concurrence éparpillée. Il y a un gros mal de crâne pour ses adversaires, mais aussi pour tous les suiveurs que nous sommes. Jérôme, Poggi, on l'adore, mais c'est quand même un sacré casseur d'ambiance quand même. On va pas se cacher la vérité, quoi. Hein. Franchement.
Oui, il a un peu cassé l'ambiance, même s'il a lancé l'ouverture du bal de façon magistrale, puisque le premier jour, rappelle-toi, Christophe, c'est Vingegaard qui attaque. Il le suit, il est là, mais sans dominer, et puis il gagne au sprint. Déjà, première victoire avec son maillot arc-en-ciel, c'est beau. Et le chrono, bah, il laisse un peu planer cette espèce d'ambiance de « et si j'étais pas si bien que ça ?» Vingegaard le domine de 30 secondes sur seulement 17 km. On se dit peut-être qu'il en a trop fait, peut-être que c'est le déclin, peut-être que finalement il n'est pas si doué que ça dans ses courses à étapes. Et puis bon, il a remis les pendules à l'heure dès le lendemain. Et effectivement, je pense que le goût du sang de la côte de Domancy avait laissé un goût amer dans la bouche du Slovène. Et puis là, bah, il lui a mis une correction. Maintenant, la vérité du Dauphiné n'est pas celle du mois de juillet, on le sait. Il y a une marge, il a de la marge, il est le plus doué de tous sur tous les terrains, comme le disait Marc Madiot, notre maître à tous. Mais le Danois n'était pas si mauvais que ça, il revient au bout de 4 mois d'arrêt, 4 mois de préparation, il reste 3 semaines avant le départ du Tour, 4 semaines, voire 5 pour les étapes les plus importantes sur le Tour de France. Sait-on jamais.
T'essayes de nous rassurer là, Jérôme.
Bah,
regarde-moi dans les yeux là. Regarde-moi au fond des yeux là. Dis-moi, tu crois vraiment ce que tu dis?
Ouais, vraiment. J'y crois. Je pense que Vingegaard a encore une large marge de progression, comme Evenepoel aussi.
Et pourquoi eux, ils auraient une marge de progression et pas Pogacar?
C'est-à-dire parce que Pogacar, il a quand même un paquet de courses dans les pattes déjà depuis le début de saison.
Il s'est arrêté quand même pendant un moment.
Mais moins longtemps que les autres. Il a eu moins le temps de le préparer. Et puis surtout, il a quelques faiblesses par moment. Et je vais peut-être vous épater, messieurs, mais je pense que sur les derniers Tours de France à force égale et à préparation égale, Vingegaard-Pogacar, Vingegaard est plus fort sur 3 semaines. On verra quand le Danois sera au départ s'il a retrouvé toutes ses facultés. On ne peut pas enlever à Pogacar d'être présent toute l'année et ne pas occulter le fait que Vingegaard il est bien gentil, mais le Tour ça suffit pas, il faut courir, il faut faire des courses, il faut être habile en peloton, il faut avoir du rythme en peloton. Et là, pour le coup, il est défaillant sur ce côté-là.
Non, mais habile en peloton, François, là, on ne peut pas lui reprocher ça. Il n'est pas tombé, pour une fois, Vingegaard, sur ce Dauphiné. Mais est-ce que tu penses que son manque de compétition se fait ressentir, là, sur ce Dauphiné? Il aurait fallu qu'il prépare différemment pour espérer briller dans le Tour ou déjà sur ce Dauphiné?
Non, moi, je suis assez d'accord avec Jérôme sur le fait que ce qu'on a vu de Vingegaard, là, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas vachement pour lui. J'ai trouvé que, oui, certes, il est un ton en dessous de Poggi, mais il est dans son truc, il est dans sa prépa. Je pense qu'il sera meilleur au départ du Tour qu'il ne l'est là. On verra aussi sur une durée de 3 semaines ce que ça donnera. Donc ça, franchement, moi, je ne suis pas hyper inquiet et je ne serai pas hyper inquiet à la place d'Evisma. Je suis plus inquiet pour Evenepoel.
Ouais.
Alors lui, pour le coup, il y a des choses dans lesquelles j'ai envie de croire, il y a des choses dans lesquelles je crois un peu moins, et une victoire d'Evenepoel, j'y crois pas du tout.
Ok. Bon, c'est bien, vous essayez de me remonter le moral. Merci les garçons.
On est là pour ça, mon Chris.
Vous êtes trop sympa. En tout cas, il y en avait un qui était ravi, évidemment, à l'arrivée, dimanche, au Mont-Cenis, Poggi, qui avait le sourire, lui qui accroche à son palmarès de titan une course qu'il n'avait encore jamais remportée. Oui, ça existe.
Le sentiment est phénoménal. Enfin, je gagne ce titre. Je me souviens en 2020 combien cette course était difficile et revenir comme ça en pleine forme après plusieurs années juste avant le Tour de France, ça me rend vraiment très heureux. C'était une très belle victoire.
Yeah, it was a nice victory.
Il en fait pas un peu d'étonnement,
ouais, franchement, on a l'impression qu'il a gagné les 5 monuments dans l'année quand il dit le Dauphiné, légendaire ça.
Il a participé une fois, c'était en 2020, je crois, il fait 4e. C'est l'année où il remporte son premier tour, juste après, non, ouais. C'est ça, ouais.
Et non, mais oui, il a envie de cocher toutes les cases. Oui. Donc, comme son bingo commence à être relativement bien rempli, il doit être content de l'avoir coché, celle-là. Mais après, bon, qu'il ne nous fasse pas non plus croire que c'était son objectif de l'année.
Ouais, ouais. Jérôme.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis tant d'années, tant de semaines. Il ne peut pas négliger le Dauphiné libéré. Vous savez, il y a une grosse différence entre nous qui analysons ses performances et lui, qui est là au départ d'une course de vélo, qui s'appelle le Dauphiné Libéré, qui vient de Slovénie, il a beau avoir tout gagné, celle-là, il n'a pas encore gagné, il ne va pas nous dire « bon, je m'en tape, c'est une coursette, quoi ». Il ne peut pas dire ça, il n'a pas le droit.
Il s'en tapait jusque-là, quand même. Rappelle-toi, il n'avait jamais mis le Dauphiné, mis à part en 2020, dans sa course de préparation, il préférait au Tour de Slovénie, donc ce qu'il n'avait pas non plus une haute idée du critérium du Dauphiné. Moi, je trouve qu'il en fait un peu des tonnes. Évidemment, c'est une grande course, on est d'accord, ça fait partie des monuments des courses d'une semaine, mais je ne suis pas sûr que...
Mais il est passé à autre chose, il est passé à autre chose, il est dans un défi envers lui-même maintenant. Il a plus de challenger. Clairement, il a l'autre Danois vendeur de poissons qui vient de temps en temps pour essayer de lui chatouiller les oreilles. Ça marche pas. Il a Van Der Poel. Il a envie de le battre sur Paris-Roubaix. Mais sinon, il est rentré dans la compétition avec quelqu'un qui est maintenant en retraite et qui boit des canons quand il y a des grandes courses. Et Eddy Merckx, c'est son adversaire principal aujourd'hui, c'est la légende. C'est juste mettre des chiffres en face de ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Il n'y a pas de concurrence pour lui sur le vélo, donc il va chercher des challenges ailleurs. Moi, ce qui m'inquiète, oui et non, mais on l'entend de plus en plus dire, j'espère que je ne vais pas trop m'ennuyer longtemps, sinon je ferai autre chose. Parce que j'ai l'impression qu'il s'ennuie, quoi. Il va commencer à s'ennuyer, à dominer comme il le fait. J'ai quand même l'impression qu'il remplit des cases pour dire, voilà, j'aurais été le plus grand coureur cycliste de tous les temps, puis je vais m'arrêter parce que je ne m'amuse plus. Parce que je pense qu'à la base, c'est quand même un coureur qui a... qui a besoin de ça, qui a besoin de s'amuser,
c'est pas le
de
seul,
partir de loin, de
Van Der Poel est un peu dans le même genre aussi. Ouais,
exactement,
hein.
Exactement. Mais sauf que il manque un Van Der Poel.
Oui.
Enfin, il manque quelqu'un de la trempe de Van Der Poel sur les grands tours et dans la montagne. Et là, pour l'instant, il l'a pas quoi.
Ouais. Ouais, même si Vingegaard l'a quand même battu deux fois dans le Tour de France, faut pas l'oublier.
Oui, justement, c'est pour
et
ça.
Et c'est
ça...
peut-être pas fini, évidemment.
Non, mais c'est pour ça, effectivement, je suis d'accord. Il y a un côté. Il n'aime pas que gagner, Pogacar. Il aime être poussé dans ses retranchements, être challengé, et il aime gagner avec de l'adversité.
Je suis sûr qu'il a été déçu du manque d'adversité.
Exactement.
Dans ce Dauphiné.
Et je pense que c'est ça qui le.
Il était
s'est
tout
ennuyé
excité.
Sur le Dauphiné.
Il était
il s'est
tout
ennuyé.
Excité.
Vraiment.
Ben oui. Non, mais quand t'attaques et 100 mètres plus loin, ben, tu vois qu'il n'y a personne. Oh, c'est décevant quand même, parce que lui, c'est vrai.
Mais tu sais que
raison,
je
il
suis.
Aime le fight.
Ouais, y a un
j'ai,
côté...
Ouais, vas-y.
Il y a un côté un peu comme dans Astérix. Tu bois de la potion magique, ouais. Puis après c'est un peu facile et donc tu tapes sur des Romains, mais c'est bon, c'est un peu lassant. Ils pourraient être un peu plus punchy, les Romains. Bah là c'est pareil, c'est genre déjà au bout de 100 mètres c'est fini. Bon, bah les gars, entraînez-vous un peu.
Attention avec la potion magique quand même.
Ouais, faire attention, oui, ça, tu as raison. Dans le vélo,
je suis à peu près persuadé que Tadej Pogacar, la plus belle étape et le plus bon moment pour lui de Tour de France 2024, c'est l'étape au Lioran où il se fait taper par Vingegaard parce qu'il se domine, il domine. Il se balade et là, il y a une espèce de doute sur son ultra-domination et c'est ce qui l'a fait aller encore plus loin dans ses retranchements. L'étape du Lioran, elle constitue pour lui un vrai tournant dans le fait tout n'est pas acquis. Et aujourd'hui, il aimerait avoir ce pic de rappel. Attention, t'as quand même un mec qui est capable de te battre. Là, il ne l'a pas eu. Et effectivement, je suis d'accord avec vous sur ce Dauphiné. Bah, on a quand même l'impression qu'il s'est un peu oublié. Preuve en est son chrono. Le chrono était tout seul, mais il n'a pas su aller plus loin que ça parce qu'il s'est dit, bon, de toute façon, je suis tellement au-dessus. Et au final, il s'est fait piquer parce que d'autres ont été plus vite que lui. Mais c'est encore une fois que la réalité de ce Dauphiné. Peut-être que sur le Tour, ce sera un peu différent.
Si je t'écoute, tu voudrais dire que le col du Granon, par exemple, est son meilleur souvenir dans le Tour de France lorsqu'il est battu par Vingegaard.
Ah non, c'est ce qui lui a fait, c'est ce qui lui a permis d'être encore meilleur aujourd'hui. Ça, c'est une certitude.
Ouais, ouais.
Détester la défaite, c'est l'âme c'est l'essence même de tous les grands champions. Le Lioran, c'est la phase de doute. Rappelle-toi, Chris, l'année dernière, on a lancé des débats. Est-ce que ce n'était pas la bascule du Tour ? Vingegaard le bat au sprint pour une demi-roue, un demi-boyau. Et là, on s'est dit, ça y est, le Slovène craque et le Danois revient dans le jeu. Et je suis sûr que ce genre de moment, quand tu es un ultra champion, ça te pique et ça te permet d'être meilleur.
François, tu es d'accord avec ça ?
Ouais, je suis assez d'accord et c'est ce qui fera en fait la durée de sa carrière à mon avis. C'est combien de temps il va pouvoir tenir avant, enfin, est-ce qu'il va tenir s'il n'y a pas de gens qui viennent le challenger vraiment et est-ce que lui, à mon avis, doit croiser les doigts pour qu'il y ait, bah, espérons-le, un Sexas peut-être, qui vienne assez rapidement le challenger sur des terrains où d'habitude il est plutôt tranquille et c'est peut-être ça qui le fera prolonger un peu plus sa carrière parce qu'il aura enfin quelqu'un, un rival à sa hauteur. Après, encore une fois, attendons de voir le Tour. Si ça se trouve, il va l'avoir en la personne de Vingegaard et ça va être super. Mais s'il n'est pas challengé cette année, il va commencer à s'ennuyer.
Tadej Pogacar qui déclarait hier « Jusque-là, cette saison est magnifique. Si ça continue comme prévu, ce sera la meilleure de ma carrière. Je sais que je le dis tous les ans, mais je pense arriver au pic de ma carrière. » C'est-à-dire que là, on a le meilleur Pogacar qu'on verra jamais.
Alors, moi, je pense qu'on a le meilleur qu'on ait jamais vu, là, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait le meilleur qu'on ne verra jamais. Je pense qu'il peut encore progresser. Bah, en tout cas, dans les résultats, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de trous dans son palmarès de l'année. Mais tu vois, un Milan-San Remo, il peut te faire...
Milan-San Remo et Paris-Roubaix, c'est les deux trucs qui lui manquent
il
encore.
Il peut te faire un triplé. Franchement, il n'y a plus de choses impossibles pour Pogacar.
Oui,
il peut te faire un Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix.
Ou
les trois grands tours, je sais. Enfin, il y a des trucs qu'on pensait impossibles. Et en fait, maintenant, on se dit, bon, il n'y a rien d'impossible.
Rien d'impossible donc pour Pogacar qui sera évidemment le grandissime favori. Alors Vingegaard, on a déjà un petit peu parlé. Tu nous disais ce week-end dans les grandes gueules du sport, Jérôme, que ses données dans l'étape de Combloux étaient inférieures à celles du chrono du Tour en 2023, là où il avait éparpillé la concurrence. Hein, c'est sans doute le plus beau chrono réalisé par un coureur, par un grimpeur. Hein. Ses lignes étaient incroyables, ses trajectoires fantastiques. Il avait vraiment mis une grosse grosse pilée à Poggi ce jour-là. A priori, ces données-là sur ce Dauphiné sont largement inférieures à celles de 2023. Est-ce que c'est parce que là aussi il est en préparation ou est-ce que c'est parce qu'il est en régression?
Là, telle est la question et telle est la réponse de ce qui va se passer au mois de juillet. C'est-à-dire que est-ce qu'il est encore capable d'atteindre ces données-là après deux saisons où il a chuté lourdement et il court très peu? Parce que la compétition t'apporte ça. On a beau savoir aujourd'hui maîtriser l'entraînement pour arriver à point nommé sur un objectif, la course, c'est la course et rien ne remplacera jamais la course. Est-ce qu'il a encore ses capacités pour atteindre ces données-là? Oui, avec son âge, avec sa préparation, avec son mental, je pense que oui. Mais évidemment, il y a ce manque à gagner, on va dire, de watts qu'il n'exploite pas en course parce qu'il n'y est jamais en course. C'est toujours pareil, la question est, est-ce que finalement, c'est pas mieux de se réjouir qu'un garçon soit là toute l'année plutôt qu'un autre qui disparaît et qui est là que sur les grands événements? Pogacar a talent égal, si ça l'est vraiment sur trois semaines, au moins on ne peut pas lui reprocher de courir. Il est là et c'est sa compétition, son rythme en compétition lui permet d'être toujours compétitif sur chacune de ses courses.
Mais maintenant, tu veux dire
s'il
que...
est capable ouais. de retrouver ses watts de Combloux, d'Ilia, de Domancy notamment, où il avait pulvérisé le Slovène, d'il y a deux ans, effectivement, il a encore une très belle marge de progression. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il est en reprise là, après sa chute au Paris-Nice, qu'il a préparé gentiment le Tour de France et qu'il va encore progresser jusqu'au départ du Tour.
Il va progresser sans faire de course. Donc, on est à peu près dans le même schéma que jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner en montagne pendant les trois semaines qui nous séparent du départ du Tour, François. Là,
oui.
Il n'y a pas de changement majeur pour Vingegaard, là.
Non, mais exactement comme les fois où il a gagné le Tour de France. C'est-à-dire que s'il y a bien un truc que Vingegaard sait faire, c'est se préparer et être prêt le jour J. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. Je pense que le Vingegaard qu'on va voir au départ du Tour, ça sera un Vingegaard qui sera prêt dans ses objectifs. Est-ce que ça suffira pour battre Poggi? On verra, mais en tout cas, il sera au max de ce qu'il peut
de
proposer.
De s'en rapprocher, ça c'est sûr. Parce que Christophe, tu le dis, il vient de faire une semaine de course déjà. Ça, c'est pas rien.
Ouais.
Et sur la fin de semaine, il n'est pas tombé
en plus.
Et il n'est pas si mal hier. Et derrière, il va faire 10 jours de course autour. 10 jours de course autour où pour ces garçons-là, ça reste la fin de la préparation. Parce qu'il ne va pas se passer grand-chose, à part d'être vigilant et de ne pas tomber. Le rendez-vous du chrono à Caen. Le rendez-vous. C'est la seule crainte qu'on peut avoir. C'est que, à un moment donné, quand tu vis dans ta chambre tout seul et que tu ne viens pas à table avec les autres, tu t'étouffes avec la boulette de poisson quand tu passes à table avec tout le monde. Et là, c'est ce qui peut se passer dans un peloton de 190 furieux qui vont avoir envie de gagner une étape. Et ça, ce sera de sa faute, malheureusement, parce qu'il n'avait qu'à venir avant. Et quand bien même, ça peut aussi arriver à ses adversaires. On n'a jamais connu un problème pour les uns ou pour les autres. Donc, il va être prêt. Il va encore accumuler des jours de course, de la prépa. Maintenant, de là à ce qu'il sera à hauteur pour pouvoir concurrencer Pogacar, je pense pas non plus. Mais en tout cas, il va s'en rapprocher.
Et il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu regardes le parcours du Tour, cette première semaine, c'est une semaine, on dirait, des classiques tous les jours avec des espèces de boss, tout ça. Oui. Ça, c'est un truc qui va exciter Poggi. Et Poggi, moi, je le vois bien, ne pas réussir à se retenir d'aller jouer la victoire d'étape, d'aller
de voir des Van der Poel. Et cramer dans ces étapes accidentées.
Peut-être pendant que Vingegaard va se dire tranquille, la victoire, l'importance est le maillot jaune. Poggi, il va voir des Van der Poel attaquer dans tous les sens. Il va faire j'y vais. Et peut-être qu'il va s'épuiser là-dessus.
C'est bien ton scénario là, ça me plaît bien ça.
Cette mentalité là, on peut la transgresser et on peut la transmettre sur le côté géographique d'un staff. C'est-à-dire que le staff UAE, c'est de l'italien, c'est de l'espagnol, c'est du sanguin. Puis de l'autre côté, tu as la froideur hollandaise, danoise, où on calcule tout, on maîtrise tout. Et tu as parfaitement raison que sur la première et les 10 premiers jours, on va avoir quand même plus de mal à dire à Tadej arrête d'attaquer dès qu'il y a une bosse et un drapeau en haut d'une côte, plutôt qu'au Danois qui, lui, va préparer gentiment les 10 derniers jours du Tour. Et ça, évidemment, avec le début de saison de Tadej Pogacar, qui en a énormément fait, même s'il est le phénomène et un génie de cette discipline, peut-être que ça peut être difficile et on peut le payer en troisième semaine. Là, chaque fois que les deux fois que Vingegaard a gagné le Tour, il l'a principalement gagné sur les 5 à 8 derniers jours.
Très bien. Bon, ben vous m'avez redonné le moral. C'est très bien. Merci, messieurs. Je suis ravi de vous côtoyer, finalement. On va quand même parler du troisième du classement général. Enfin, non, parce qu'il n'est même pas troisième, Evenepoel. C'est l'Allemand Lipovitz dont on parlera dans un instant. Un petit mot, quand même, sur le champion olympique. On parlait beaucoup de ses quelques kilos envolés qui auraient dû lui permettre de voler, justement, dans la montagne. Bon, on attend toujours. Hein. Alors, il y a des problèmes d'allergie, nous dit-on, François.
Oui, alors, une fois, c'est les allergies, une fois, c'est les kilos. Mais en fait, il a dit lui-même, franchement, c'est assez décourageant de les voir tous les deux. Et il met Vingegaard et Poggi dans le même sac. Il dit, en fait, leurs équipiers roulent à bloc, eux, ils sont en train de se balader. Moi, je suis cramé. Et en fait, quand eux, ils partent, bah, il n'y a plus rien. Donc, en fait, il reconnaît déjà qu'il n'est pas de la même trempe. Et que peut-être que lui, parce qu'on attend toujours de le voir en haute montagne. J'ai aucune référence de Evenepoel en haute montagne qui me vient en tête quand j'ai réfléchi. J'ai que des déceptions. Alors, c'est un super coureur par plein d'autres aspects, mais en fait, pour gagner
mais
le
pas
retour,
pour gagner le Tour de France.
Pour gagner le Tour de France, il faut être bon en haute montagne. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça va être un peu dur.
Est-ce que lui aussi va prendre conscience de tout ça un jour, Jérôme, et finalement se dire que ça ne sert à rien de s'aligner au départ du Tour si c'est pour faire de la figuration face aux deux autres? Bon, l'année dernière, il avait fait plus que de la figuration. Il termine troisième. Il fait une belle dernière semaine quand même. Mais Evenepoel, il est là pour gagner. C'est pareil que Pogacar. C'est un champion né. Je veux dire, c'est le mec qui est là pour soulever les trophées et faire la bise aux hôtesses. Hein. C'est pas pour être au pied du podium. Donc, est-ce que ça peut le faire changer d'avis?
Changer d'avis, je sais pas. Il a un ego surdimensionné, ça c'est sûr. Il arrive d'une discipline qui s'appelle le football où des grandes déclarations et des gestes font presque de toi un champion. Mais là, il faut de l'humilité, travailler, revenir. Il est le troisième de la hiérarchie, il faut qu'il l'accepte. Il n'est pas le meilleur dans le domaine du Tour de France et loin de là. Il a beaucoup de lacunes, il court très mal, il est mal placé. Il n'est pas très habile sur un vélo puisqu'il est encore tombé cette semaine, il ne faut pas l'oublier. Mm-hmm. Donc il lui manque un paquet de choses pour être le meilleur. Et c'est pas de faire une campagne de publicité, de créer ta marque, de communiquer sur ta femme et ta religion qui vont faire de toi le plus fort du peloton. C'est le travail et c'est assommer tes adversaires quand il le faut et être le meilleur quand il le faut. Il gagne le chrono, la seule chose qu'il retient, c'est j'ai parié une montre à 15 000 contre Van Der Poel que j'allais lui mettre plus d'une minute. C'est pas ça le problème, mec. Actuellement, ton souci, c'est de revenir au niveau que t'étais l'an dernier, d'être un peu meilleur pour espérer remonter sur la boîte du Tour. Parce qu'il fait partie de ceux qui sont le plus en danger pour le podium. Si Vingegaard travaille bien, il y sera sur le podium. Si Pogacar, il lui arrive rien, il sera sur le podium. Evenepoel, il n'a pas le droit à la marge d'erreur. Et pour moi, il n'a pas mis les choses en place pour être sur ce podium. Pour l'instant, il a trop de retard. Parce qu'on parle de Evenepoel, et tu viens de le dire, Christophe, et c'est un très beau lapsus, c'est le troisième. Non, il y a beaucoup de coureurs plus forts que lui sur ce Dauphiné. Alors, il a fait un très beau chrono, mais en montagne, je suis désolé. Oui, dès que ça attaque, il les regarde faire.
C'est sur trois jours de montagne. Sur le Tour de France, il y en aura un peu plus.
Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, tu vois, pour moi, il doit se reconcentrer sur son métier. Et d'abord ça. Il a eu une chute très grave, un accident très grave cette année. Il a préparé le Tour de France. J'ai vu des images, les 3 kilos peut-être. Je ne suis pas dans la balance. Mais je vois pas un mec plus affûté que l'année dernière. Non. Il est pas gros, hein. Au-delà, mais j'ai pas dit ça.
Mais il est pas. C'est pas flagrant.
C'est pas flagrant. Ça saute pas aux yeux. Autant l'an dernier, Chris, rappelle-toi, il est arrivé au départ du Tour et déjà du Dauphiné, on s'est dit, waouh, il a séché. Là, ça m'a pas épaté. Et puis dans sa manière d'être. Hier encore, sur la fin de l'étape, il fait rouler ses gars. Mais j'ai envie de dire, mais pour qui se prend-il? Il a tout à reprouver. Plutôt qu'à assumer un rôle. Son rôle, c'est un génie du vélo dans certaines courses, mais pas sur les courses comme celle-ci et surtout pas en montagne. Il a pour moi trop de lacunes et il risque de le payer très cher s'il reste sur ses acquis, une espèce d'assurance en lui-même qui va plutôt le désavantager que l'avantager sur les prochaines 3 semaines.
Et tu mets le doigt sur un autre problème, c'est qu'il avait vraiment pas d'équipe sur ce Dauphiné.
Ah ben ça, c'est sûr.
À chaque étape, il se retrouvait tout seul immédiatement. Alors, on va voir si ceux qui sont sur le Tour de Suisse et qui reviendront sur le Tour de France avec lui seront un peu meilleurs. Mais en fait, s'il a des problèmes de haute montagne,
bon,
que attends, le chrono
je te coupe,
suffit
hier, il y a 30 mecs devant au Tour de Suisse, il n'y a pas un quick step. Ouais. Dans le groupe qui suit il y a 2 minutes, il n'y a pas un quick step. Hein,
c'est plus que c'était la quick step. Ouais. Hein. C'est non, pas l'époque ça... de Jérôme Pinot.
Depuis que Pinot et Chabanel sont plus là, c'est le bazar.
Ouais, ça va être compliqué. Si en fait, il pense juste que le fait d'être très fort en chrono, et ça, on le remet pas en question, il est très fort en chrono. Mais s'ils pensent que ça suffit pour viser la victoire de retour, moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Nous verrons bien ce que nous réserve Remco Evenepoel, devancé donc au classement général final par le surprenant coureur allemand de la Bora, Florent Lipovitz, qui termine 3e. Il confirme tout le bien que l'on pensait de lui après sa très bonne Vuelta l'an dernier. Hein, c'était son premier grand tour, il termine 7e. Début de saison canon, 2e de Paris-Nice, 4e du Tour du Pays Basque, 3e du Dauphiné. Et si c'était lui le futur leader de la formation Bora sur le Tour de France, et s'il passait devant un certain Primoz Roglic, qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Écoute, affirmatif. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce garçon-là est en train de progresser à une vitesse folle, qu'il est solide, il n'est pas très connu, mais on parle peu de lui. Et finalement, à chaque fois, bah, il n'est pas en retard au rendez-vous, quoi. À chaque fois, c'est lui qui tire les marrons du feu sur chacune des grandes courses auxquelles il participe. Parce que tu l'as dit, Paris-Nice, le Tour du Pays Basque, l'an dernier la Vuelta, faire top 10 avec un énorme plateau, ça te classe un garçon. Il est en train de s'affirmer et puis il prend la place dans une équipe où il y en a, quoi. C'est-à-dire qu'il a Van Gils qui est très 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 fort dans les classiques ardennaises, dans les courses difficiles d'une semaine, mais il a montré cette semaine qu'on peut compter sur lui. Faut pas oublier, alors on peut mettre à son actif l'échappée de la Movistar gagne, qui est parti très tôt et ça a bastonné, il était devant, mais il a profité du temps qu'il a gagné là sur une quarantaine de secondes, mais derrière il a jamais pété, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi la faculté d'un garçon à très très bien récupérer. Effectivement, je pense que sur les prochaines semaines et sur la suite de cette équipe Bora, il peut s'affirmer très vite comme un grand leader.
Ouais. Et même dans le chrono, hein, il est cinquième du chrono, juste derrière Pogacar. Bon, il est à un peu moins d'une minute d'Evenepoel, mais voilà, c'est un coureur complet. Hein.
Ah, c'est un coureur complet, il est en place, il peut tout à fait viser le podium du Tour. Et moi, il m'a vraiment plu cette semaine parce qu'il était très rafraîchissant. On voyait qu'il tentait, il se disait je vais essayer de suivre, et puis ça passait. Ah, bah, tiens, il se surprend lui-même, et donc derrière, même dans ses déclarations d'après-course, il te dit je savais pas trop si j'allais y arriver, mais là je me sens bien.
C'est vrai, il y a de la fraîcheur, de la candeur. C'est un jeune coureur,
24 ans. Ouais, c'est exactement l'inverse de ce qu'on disait sur Evenepoel, qui commence par faire des déclarations et qui après a du mal à les assumer. Lui, c'est l'inverse, il dit je sais pas trop si j'y arriverai, mais derrière ça passe, il a tout ce qu'il faut.
Bon, à suivre sur ce Tour de France. On verra dans quel état se trouve son leader, a priori, Primoz Roglic, qui prendra lui aussi le départ de ce Tour. Bon, on a fait tous les constats. Vous m'avez à peu près rassuré, mais on va quand même passer à la douloureuse, messieurs, avec cette question que tout le monde se pose. Est-ce que le Tour est déjà joué ? Est-ce qu'on va quand même assister à une vraie bagarre ? Je sais que vous avez avancé des arguments, mais est-ce que vous y croyez vraiment, au fond de vous, François ? Est-ce que tu y crois vraiment ? Ou est-ce que tu veux te convaincre, justement, que ton mois de juillet ne va pas être trop ennuyant ?
J'y crois toujours, par principe, parce que... Non, mais il peut toujours y avoir une chute.
Je suis comme toi, moi aussi, j'essaie toujours de me dire ça.
Non, mais rien
même
chute,
quand il y a
5
minutes d'avance, à 3 jours de l'arrivée, je me dis, il peut encore se passer quelque chose.
Voilà, et il y a une image qui m'a un peu marqué et qui m'a rappelé qu'il faut toujours y croire, c'est sur le chrono, celle de Pogacar qui a besoin de boire au bout de 5 minutes de course, et d'ailleurs il fait derrière, quand il fait son mauvais chrono, on se dit est-ce qu'il se serait pas mal hydraté, la fringale, tout ça, et ça c'est un truc qui lui pend toujours au nez à Pogacar. Il peut toujours lui arriver un truc comme ça, il peut tomber, machin. Si Pogacar, il ne lui arrive rien sur ce Tour, j'y crois un petit peu moins, mais je pense pas que Vingegaard sera si loin que ça, il va pas se prendre 6 minutes.
Jérôme, pareil.
Alors Jérôme, on va prendre date, il est 15h33 et on est le 16 juin. Et j'affirme aujourd'hui, et c'est mon pronostic, même si peut-être je vais me tromper, et c'est pas mes amis, je pense que Jonas Vingegaard va gagner le Tour de France.
Allez, wow. On aime.
Ah ouais, d'accord. Tu parierais ton magasin de vélo là-dessus ?
Non, parce qu'il m'appartient pas qu'à moi.
Je pense que ton frangin serait pas d'accord.
mais en plus, le pire, c'est que j'y crois fermement. C'est-à-dire qu'il arrive d'une prépa et je trouve ce garçon-là Dieu sait si j'aime pas les gens qui l'entourent et son patron encore moins. Les méthodes, c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'il est étonnant de forme après tout ce qui lui est arrivé. Je l'ai trouvé épatant l'an dernier en second, qui n'a jamais baissé les bras, même s'il a été loin après avoir subi une grave chute, même si les conséquences, je l'ai souvent mis en doute et je pense qu'il n'était pas aussi fort qu'on a pu le dire, mais on était à peu près sûr qu'il ne gagnerait pas. En revanche, cette année, attention à Vingegaard, et moi je le mets vainqueur du Tour, parce qu'il m'a montré des choses cette semaine, et notamment sur le chrono, qui sont à couper le souffle quand même, parce que mettre 30 secondes à un mec comme Pogacar, quand tu vois ce qu'il fait sur la fin de semaine, ok il a bu, ok il a mal préparé son chrono, mais je crois aussi à ce que tu viens de dire, c'est que Poggi est tellement sûr de lui qu'il peut se faire surprendre. Et à être trop sûr de lui, il va courir après les miettes la première semaine parce qu'il aime la compète, alors que Jonas Vingegaard est un calculateur et que ce Tour de France, comme il est tracé, il va falloir bien calculer, pas s'éparpiller et être très fort sur la dernière semaine. Et à ce petit jeu-là, je pense que Jonas est le grand favori du Tour. Ça n'est que mon avis, même si évidemment sur le terrain cette semaine, ça ne s'est pas traduit comme cela. Je pense qu'il va encore énormément progresser et qu'il va être largement à la hauteur au mois de juillet.
Ça va faire de la reprise sur le web, ça, François.
Bien évidemment. Ah, alors là, je directement
dire,
le papier.
J'imagine sur le site d'RMC Sport, là tout de suite. Vingegaard, pour moi, le grand favori du Tour. Tu vas voir, là, tout le monde qui va t'appeler, Jérôme, dans les
pas
heures
de soucis,
qui viennent.
Tu sais, j'en ai. Il y a bien de gens qui m'ont critiqué sans m'appeler, donc ils m'appellent. Ça, c'est pas de problème.
Très bien. Allez, on va s'intéresser dans un instant à nos Français, parce que là, ça a été un feu d'artifice ce week-end, avec notamment Paul Sexas, avec Lenny Martinez, avec Romain Grégoire et avec le départ de Romain Bardet. Ce sera dans un instant le baromètre des Bleus, évidemment.
RMC, le baromètre des Français.
Et à tout seigneur, tout honneur, on va attaquer ce baromètre par la victoire française, la seule de ce Dauphiné, signée Lenny Martinez, qui s'est offert un magnifique succès au sommet au Mont-Cenis devant Vingegaard et Pogacar. C'est pas donné à tout le monde, ça, quand même, hein, de s'imposer devant les deux cadors, bon, qui se sont pas vraiment fait la bagarre. Sans doute en aurait-il été autrement pour notre ami Martinez s'ils avaient décidé de se livrer à fond sur le final, non, François?
Bah, peut-être, mais n'empêche que c'est lui qui lève les bras, donc on peut toujours se dire que s'il y avait eu un peu plus d'adversité, tout ça, il ne serait pas là où il est. Mais ils étaient pleins à vouloir cette victoire d'étape.
Exactement.
Et c'est lui qui l'a eu.
Et il l'a eu. Et de quelle manière? On va écouter tout de suite Lenny Martinez qui était ravi et ému par cette victoire, s'imposer devant les cadors quand même. Ce n'est pas tous les jours.
J'avais les larmes aux yeux, j'étais super heureux. C'est rare que ça me fasse ça, mais voilà, je suis passé par des moments vraiment pas bien. J'étais une très nulle sur tout ce Dauphiné. Gagner la dernière étape, c'est super. Je n'étais pas venu pour l'étape, mais au final, très bon.
Voilà, il n'était pas venu pour les étapes, il était venu pour le classement général, c'est ce que je crois comprendre de cette interview. Il a su, comme d'autres coureurs français avant lui, Jérôme, finalement, changer son fusil d'épaule. Il a vu que pour le général, c'était râpé cette semaine, même s'il a fait de très bons classements dans d'autres courses de cette saison. Et il a su se reconcentrer vers la victoire d'étape. Il est allé se la chercher, celle-là. Elle est belle, hein?
Elle était très belle. Il a su se réinventer, il a su se remettre la tête à l'endroit, ce qui est le plus difficile, hein, dans le cyclisme quand on attaque un objectif clairement défini, c'est classement général. Lenny se voyait sur le podium de ce Dauphiné, je pense, derrière les deux intouchables devant. Il a pris coup sur coup des défaillances. Il a fait un bon chrono pourtant, mais derrière, il n'a pas été bien.
Il s'est accroché dans le chrono. Ouais. Derrière,
ouais,
il a payé. Ouais.
Mais il n'a pas été bien dans son terrain et se réinventer comme ça. J'ai plutôt tendance à dire qu'il a fait une grosse prépa et qu'il était un peu mollasson sur les premières étapes, mais que petit à petit, il est monté en pression. C'est d'une part très rassurant physiquement, parce qu'il finit bien mieux le Dauphiné qu'il l'a commencé. Et puis de deux, c'est encore plus encourageant psychologiquement, parce que ça veut dire que c'est au-delà d'être un très grand coureur, parce qu'il fait déjà partie des très grands, parce qu'il se loupe de temps en temps, mais quand même il gagne sur le Paris-Nice, il gagne sur le Romandie, il gagne sur le Dauphiné. Bon, au-dessus de ça, c'est les grands tours. Donc le premier, c'est le tour. C'est très rassurant dans la tête, parce que c'est un gamin qui lâche rien. Et quand on est pas top et moyennasse sur le Dauphiné, quand on arrive quand même à gagner une étape en étant moyennasse, ça promet de belles choses quand on va être super bien. Quoi. C'est donc un formidable résultat pour Lenny Martinez.
Lenny qui, dans 3 semaines, sera au départ du Tour. Alors, quel objectif doit-il se fixer selon vous ? On rappelle que l'année dernière, ça avait été un Tour très difficile. C'était son premier. Il n'était pas préparé mentalement pour faire le Tour. Ça avait été décidé un peu à la dernière minute par Marc Madieu et la direction de la Groupama FDJ. Qu'est-ce qu'il peut viser cette année ? Est-ce que viser un classement général, faire un top 10, faire un top 20, c'est vraiment ce qu'il doit faire ? Ou aller viser les victoires d'étape ? Pourquoi pas le maillot à poids, comme son grand-père, Mariano, vainqueur du classement de la montagne en 78 quand même. C'est pareil, ce serait magnifique de voir. Là, on arrêterait de comparer Poulidor et Van Der Poel, on parlerait des Martinez, François.
Bah oui, mais moi je trouve que c'est vers ça qu'il faut qu'il se dirige. Alors après, peut-être que ses directeurs sportifs ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve ça dommage qu'on lui demande de viser le classement général à 21 ans, alors que quand on le voit justement, bah oui, c'est encore un garçon qui a des sautes de concentration ou des coups de plateforme qui font que quand il sent qu'il n'est pas très bien, bah, il lâche un peu dans la tête et hop, il prend 15 minutes. Moi, je serais ces directeurs sportifs, je lui dirais, bon, bah, essayons de viser des victoires d'étape, essayons de viser un maillot de la montagne, quelque chose, mais quelque chose qui va te donner confiance en toi et qui, derrière, sera toujours temps plus tard, dans quelques années, de commencer à vraiment axer sur les classements généraux.
C'est vrai que les jeunes Français attaquent souvent très tôt pour le classement général.
Ouais,
c'est
dommage.
C'est la pression qui est mise par leur directeur sportif.
Alors
par
que là, moi, je suis convaincu que Martinez, il peut nous sortir une étape reine, une belle épopée en montagne.
Et puis, s'il devient l'égal de Virenque, l'égal des autres, c'est quand même comme ça, avec ce classement de la montagne, ces poids rouges sur le dos, qu'ils ont fait leur renommée et leur prestige, hein, tous nos champions français depuis 40 ans qu'on n'a plus de victoire. Dans le classement général. Bon, on verra ça. Hein, maillot à poids, ça peut être une idée ou non, Jérôme ?
Quand tu es départ du Tour de France, que tu as 21 ans, que tu t'appelles Lenny Martinez, que tu vas bien au chrono, que tu vas très bien en montagne.
C'est qu'il est bon en chrono.
Tu ne peux pas imaginer autre chose que faire un bon classement général. Maintenant, où je prends le contre-pied de François, c'est comme le dit souvent cette fameuse et très belle expression, vise la lune, tu finiras dans les étoiles. Il doit partir très haut, il n'a pas le choix. Il est parti chez Bahrain Victorious, il a quitté une équipe française, il est parti là-bas pour ça. Si tu vas chez Bahrain, que tu arrives au départ du Tour, parce que l'an dernier c'était la punition, cette année tu as envie d'y aller, et toi tu dis au départ, bon, je vise une ou deux étapes, et puis voir le maillot à poids. Mais tu vas passer pour un mièvre. Tu vas dire, mais pourquoi t'es parti ? T'aurais pu faire la même chose l'année dernière. Donc, il est obligé de viser ça. Il est parti pour ça. Maintenant, tant mieux. Il l'a fait sur le Dauphiné. Et finalement, hier, on a kiffé. Donc, nous, on a juste envie de vibrer avec lui. S'il vise le général et puis qu'il se loupe, on ne va pas lui taper dessus et on ne va pas le mettre au pilori si derrière, il gagne 2 étapes et qu'il a le maillot à poids. Tant mieux pour nous et tant mieux pour le vélo. Maintenant, son statut ne lui permet plus aujourd'hui de dire on va voir. Voilà,
d'une formation aussi importante que celle-là, tu peux pas te contenter de jouer, de faire de la figuration. Lenny, donc 22 ans, participera à son deuxième Tour de France. Il faudra en revanche patienter un peu plus avant de voir sur les routes de la Grande Boucle le plus grand espoir du cyclisme français, un certain Paul Sexas, qui a confirmé tout au long de la semaine tout le bien que l'on pensait de lui. Il a même fait mieux qu'espéré. Étonnant, 8e du Dauphiné. Encore, il a perdu 2 places dimanche. Il a un peu explosé quand même dans la dernière étape. Il a chuté dans l'ascension du dernier col. Mais malgré tout, mais quelle semaine incroyable. Et du coup, il fait la une de tous les journaux. Mais là, la pression va être décuplée quand même, hein, François.
Alors
heureusement qu'il n'est pas au départ du Tour. Hein.
Ouais. Il va avoir un tout petit peu de pression, je pense, effectivement. Ouais. Quand tu as 18 ans et que déjà, on te répète Ino dans chaque phrase. C'est un peu compliqué. Mais moi, ce que tu dis, il a un peu explosé. Justement, moi, ce qui m'a étonné, c'est que
il n'a pas explosé. Oui, il a réussi à limiter les dégâts.
À 18 ans, 3 jours de haute montagne d'affilée quand on n'a jamais fait...
Il dit, j'en ai pas fait quand même.
Hein. Ouais, il dit, c'était les pires jours de ma vie, mais il n'a pas lâché. Et ça, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur lui. C'est-à-dire qu'il vivait l'enfer et il n'a jamais lâché. Et il finit 8e à 18 ans. Je trouve ça hallucinant, même en le disant comme ça. Il m'a bluffé.
Ouais, Jérôme, pareil, bluffé par Paul Sexas. Si les petits cochons ne le mangent pas, celui-là ira loin. Mais ça fait un moment qu'on dit ça avec d'autres coureurs. Donc j'espère que la tribu des cochons n'a pas encore frappé, quoi.
Tu sais, hier, dans le débrief après l'étape de Valsoni, on a évoqué avec Marina cette idée-là de dire oui, mais on a souvent dit ça. Sauf qu'un mec comme lui, on n'en a jamais vu. Moi, je suis dans le vélo depuis 25 ans. J'ai jamais vu un talent aussi précoce en France. On a voulu fabriquer.
Tu parles d'un Français.
Voilà, un Français. Mmh. On a voulu fabriquer. C'est-à-dire qu'on a espéré. On a mis Sylvain Chavanel sur un piédestal en disant voilà, nous voilà avec le nouveau coureur. Non, non. Paul Sexas, pour un grand tour, c'est exceptionnel. Tu l'as la statistique. C'est le plus jeune coureur dans le top 10 de l'histoire du Dauphiné. Et il est français. C'est-à-dire que c'est un garçon qui sait tout faire et qui a en plus une espèce de maturité intellectuelle qui peut assumer largement la pression. Déjà, lui, Bernard Hinault, c'est un nom dans un bouquin en noir et blanc qu'il connaît à peine. Et ça, c'est une force pour lui.
Oui, alors que pour vous, ta génération, il était encore présent. Puis
nous,
il était
c'était
encore...
très présent. Ouais, on le croisait sur le tour. Ouais. Tout le monde nous disait hey, « c'est quand que vous êtes comme lui ?» Lenny, par exemple, arrive d'une famille où, évidemment, il a entendu parler de Bernard Hinault
parce que son grand-père papa, etc. Ouais.
Lui, il débarque. Il était cyclotouriste il y a 3 ans et il est hyper doué pour faire ce sport-là. Et tant mieux, parce qu'en plus, il est mature et il sait courir. Moi, je pense qu'en Paul Sexas, et j'y crois vraiment, on a là le coureur de demain. Alors après, les petits cochons, évidemment, parce qu'il fait partie d'une génération, TikTok, Instagram, tout le monde va le mettre beau, il va avoir les plus belles nanas à ses pieds, il va avoir plein de convoitises, on va lui offrir 4 millions par an alors qu'il n'a pas gagné une course World Tour. Ça, il va falloir qu'il le gère, mais j'ai l'impression qu'il sait le gérer. Et surtout, on a vraiment un plan de carrière pour lui chez Decathlon AG2R. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il reste dans cette cabane-là pendant les 3 à 4 prochaines années pour pouvoir apprendre gentiment et qu'on lui laisse le temps. Et je souhaite aussi que Lenny Martinez continue à progresser et à marquer des points et gagner des grandes courses. Ça va laisser le temps à Paul Sexas de grandir gentiment. Le risque et le danger pour Paul Sexas, c'est qu'il n'y ait personne et qu'on le demande à venir le plus vite possible. Et ça, ce serait une erreur.
Bon, il y a aussi Romain Grégoire, hein, vainqueur d'étape de la première étape du Tour de Suisse.
Il y a Sparsfeld qui arrive dans son équipe aussi. Franchement, il y a énormément de bons coureurs chez les Français.
C'est un régal.
Hier, on avait 3 courses au niveau international, 3 victoires. Ouais. Et puis des belles, hein, attention.
Tu te rends compte, en 2030, quand on aura Sexas et Grégoire qui se battront pour le maillot jaune, on aura Martinez avec les poids et Magny avec le vert.
Sparsfeld, peut-être. Je pense que Romain Grégoire sera limité en très haute montagne.
Il y en a peut-être un autre. Il y en a peut-être un autre qui sera là.
Alors là, celui-là, c'est mon chouchou.
Ah, celui-là, je sais, c'est ton chouchou.
C'est mon chouchou.
Il va participer à 25 ans à son premier Tour de France où il est assez grand maintenant pour faire partie de la grande boucle. C'est, je crois, officiel. Il est membre de l'équipe Intermarché Wanty et il est avec nous en direct dans Grand Plateau. Louis Barret. Bonjour, Louis.
Bonjour, bonjour. Salut.
Bon, Louis, je le disais, 25 ans, premier Tour de France, donc dans quelques semaines, c'est officiel. On te l'a dit, on t'a regardé dans les yeux, on t'a dit tu seras au départ du Tour.
Oui, c'est officiel que je vais faire le Tour de France. Donc c'est vraiment super pour moi, ça va être une bonne découverte et un bon apprentissage. Après, j'espère bien pouvoir y performer directement.
Oui, parce que ça ne suffit pas de participer. Il faut être performant. Alors, Jérôme, je ne sais pas, il y a cette légende qui dit qu'on devient vraiment un coureur professionnel, un vrai pro reconnu comme tel par toute la profession que lorsqu'on a participé à un premier Tour de France. Est-ce que ça, c'est une légende ou c'est la vérité, Jérôme ?
Alors, disons que on te classe parmi les reconnus quand tu as fait le Tour. De toute façon, quand ta carrière se termine, surtout quand tu es en activité, quand tu dis à quelqu'un que tu croises dans la rue, tu es coureur cycliste professionnel, il y a les croix-cartes qui croient que tu bosses à côté, hein, que tu vends des vélos chez Spécialized à côté, mais tu as celui qui va te dire « Ah bon, tu as déjà fait le Tour de France ?» Oui. Et ça te classe évidemment quelqu'un. Et puis c'est sûr que ça change tout. Louis, que je connais très bien, que j'ai vu grandir, puisqu'il y a 2 passages obligatoires dans une carrière de coureur, c'est faire le Tour de France et gagner le Grand Prix de la Paclet. Il a fait les 2, donc c'est bon, on y arrive là. Mais au-delà de ça, Louis sait très bien qu'il sera différent après. Il va le vivre. Et puis le soir de l'arrivée à Paris, comme nous tous, Christophe, hein, il va se passer quelque chose. Ça va être l'espèce de blues du Tour de France. Le lendemain, il va se dire « qu'est-ce que je fais là ?» Il va avoir souffert pendant 3 semaines. Il va avoir détesté le Tour de France, détesté tous ces gens qui vont l'aduler parce qu'à la fin, ça fait trop de bruit. Et puis, il va avoir qu'une envie, c'est de revenir. Et si en plus, parce qu'il a énormément de talent et qu'il a une forme incroyable en ce moment, il y brille, bah évidemment, il n'y a plus que ça qui compte après dans ta carrière. Il y a « je vais en stage à Calpe en hiver ». et je dis quand est-ce que démarre le Tour de France, parce que c'est quelque chose qui te mène pendant toute ta vie lorsque tu as participé une première fois.
Voilà. Louis, il t'a donné envie d'y aller là, Jérôme, avec cette déclaration là.
Ah bah forcément, oui. Forcément envie de découvrir ça, et ouais, c'est vrai que tout le monde dit que c'est incroyable dans sa carrière quand on fait le Tour de France, donc j'ai hâte de découvrir ça.
Ouais, ça va être un grand moment. Jérôme, tu le disais, tu connais très bien Louis, qui est comme toi, Nantais.
Je connais très bien la carrière de Louis, qui est comme moi, Nantais. Donc effectivement, je le suis depuis qu'il est tout petit.
Bah, il n'a pas été ton coureur, il a eu du nez, il est parti.
J'aurais bien aimé, je suis parti un peu trop vite.
Ouais,
moi.
il est allé chez Arkea. Et aujourd'hui, donc chez Intermarché, cette équipe, Louis, qui suscite la sympathie, une petite équipe qui ne se la pète pas trop. Moi, je les adore, franchement. Et l'an dernier, cette équipe avait obtenu des résultats incroyables, presque inespérés, grâce à Binyang Girmay qui avait décroché 3 victoires d'étape, le maillot vert. Sera quand même difficile de faire mieux, même aussi bien cette année, Louis. Et quel va être ton rôle dans cette équipe? T'es pas un sprinter, toi, donc tu vas pas être de poisson pilote de Binyang. Qu'est-ce que tu vas faire sur ce tour? Ça sera quoi ton rôle?
Ouais, tout d'abord, bah oui, ça va être pas facile de faire mieux ou pareil que l'année dernière, mais on va essayer forcément. On est ambitieux, donc voilà. Après, pour mon rôle, bah ça sera d'aider un peu en amont du sprint Binyam, mais sinon bah les échappées puis les étapes puncher, jouer à fond le coup pour essayer de chercher les meilleures places possibles.
François.
Ouais, salut Louis. Moi j'avais une question. Ça serait quoi pour toi, tout bêtement, un tour réussi? Tu signes pourquoi là? Si on te propose quelque chose, tu dis oui pourquoi?
Salut. Je pense que minimum un podium sur une étape et puis voir mieux quoi. C'est l'objectif.
Ah ça j'adore.
Donc ouais.
Non mais il le sait. Moi j'échange avec lui depuis quelques semaines, quelques jours, encore plus depuis le départ du Dauphiné. Il y a des grands rendez-vous pour toi Louis, et tu le sais, on ne va pas dévoiler ce que tu espères dans les semaines à venir, mais c'est un garçon qui est capable de briller sur le tour. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les qualités dans les étapes où les grands vont un peu laisser faire, et ça va se jouer entre punchers.
Tu disais tout à l'heure que ça, justement ils n'allaient pas laisser faire et que
Pogacar
allait vouloir justement sur les étapes accidentées de la première semaine aller essayer de montrer le bout de son nez.
Non, mais il n'y a pas que des étapes de punchers dans la première semaine, il y en a aussi lors de la deuxième et de la troisième. Donc Louis est capable de briller sur ces étapes là, sachant que c'est quand même un coureur qui a fait sixième de l'Amstel Gold Race, hein, c'est ça te classe un mec quand même, c'est sixième de l'Amstel. Quand tu vois le plateau qu'il y avait, c'est qu'il fait partie des tout meilleurs. Et dans ce cadre-là, il a la chance, l'énorme chance, de faire partie d'une équipe étrangère, non pas française, dans laquelle il a beaucoup de liberté. Louis, c'est quoi la différence cette année entre le Louis de cette année et celui des années précédentes dans les équipes françaises? Est-ce que tu peux à la fois expliquer ton évolution, même si elle est linéaire, hein, moi je te suis depuis très longtemps, mais l'état d'esprit quand on est dans une équipe belge, parce que j'ai connu ça aussi, par rapport à une équipe française.
Ouais, c'est surtout l'état d'esprit qui change. Moi, je suis plus motivé et j'ai réussi à me trouver des objectifs dès le début de saison et j'essaye de les atteindre à chaque fois et je les augmente du coup à chaque fois parce que j'ai réussi à les atteindre au fur et à mesure des courses, donc voilà. Et puis aussi du professionnalisme qui est un peu différent, c'est une bonne ambiance de travail mais très professionnel. Donc voilà.
Bon, est-ce que tu as coché quoi comme étape? Vas-y, dis-nous tout. Enfin, je sais pas si tu peux tout nous dire.
J'ai coché quoi?
Hein, tu as dit viser un podium, mais on sait très bien que tu vises pas un podium, tu vises la victoire. Sur le tour, il y a que ça qui compte, c'est pas la troisième place qui compte, c'est la victoire.
Oui, forcément, bah, chaque course, c'est la victoire. Après, ouais. C'est très difficile de gagner. Bien sûr. On connaît le niveau. Mais ouais, moi, je vois surtout en Normandie, il y a une étape, c'est Vire, l'arrivée, qui est vraiment dure. Après, il y a Massif Central, il y en a une qui est belle. Après, je ne sais pas si les favoris voudront se jouer la victoire.
Au Mont d'Or, ouais, ça va. C'est
ouais.
Costaud, ça.
Ouais, c'est...
Ouais. Ouais.
Puis après, dans les Pyrénées et tout, il y a de quoi faire, de toute façon, sur ce Tour de France qui est vraiment assez accidenté tout au long des 3 semaines.
Ouais, ça va être sympa.
Et Vire, c'est une bonne idée parce que c'est coincé entre le chrono et l'étape de Mur de Bretagne. Ça peut être un moment un peu de relâchement pour certains qui vont peut-être pas.
Oui, mais on sait que la première semaine, il y a beaucoup d'appétit quand même. Tout le monde a faim et tout le monde a envie de décrocher une victoire, toutes les équipes. Donc ça va être, bah, évidemment, de façon à remporter quelque chose sur le tour, c'est pas facile. Louis, on en parlait tout à l'heure. Jérôme le disait, tu t'es révélé aux yeux du grand public ce printemps avec cette sixième place dans l'Amstel, qui est où tu es vraiment pas passé loin de la victoire. Tu termines à 34 secondes, je crois, du vainqueur, le Danois Skelmose, et débattu du jour qui avait pour nom Pogacar, Evenepoel, Van Aert. Ça fait drôle quand même de se retrouver en si bonne compagnie quand même dans une course de ce niveau-là. L'Amstel, c'est pas un monument, mais c'est juste en dessous. Hein.
Ouais, c'est une très grosse course, c'est presque un monument, mais il y avait tout le monde au départ. Hein. Et donc ça fait plaisir de pouvoir jouer la gagne avec eux. Et aussi, ça m'a donné confiance. Et depuis, j'arrive à faire des bons résultats en World Tour sur chaque course que j'ai fait. Oui, c'est surtout de la confiance quand on sait qu'on peut faire ça. Ouais.
Et depuis, Poggi, Evenepoel et tout ça, ils t'appellent par ton prénom, ils t'appellent Louis, salut Louis, ou le fait d'avoir fait une petite balade avec eux, comment ça se passe? Est-ce que les relations changent derrière?
Les grands champions comme ça, on leur parle pas trop.
Hein. D'accord.
On se croise pas trop, mais sinon entre Français plus et certains coureurs étrangers, oui, on arrive à se parler, mais... Les grands coureurs comme ça, ils restent entre eux.
Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment une caste dans le peloton entre les super champions et le reste du peloton.
Ouais, un peu. Après, je les connais pas assez. J'ai pas fait de gros résultats. Peut-être que ça.
C'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'ils te connaissent pas, quand tu vas leur mettre des cacahuètes, ils vont dire vas-y mon petit, on va te revoir tout à l'heure et c'est là que tu gagneras. Après, ils feront attention, mais là, tant que t'as pas gagné la première en leur coupant l'herbe sous le pied, tout va bien. S'ils te disent pas bonjour à la signature, c'est pas très grave. On s'en sort bien.
Après,
il y a quelque chose qui se passe fin juin en Vendée.
Si
tu gagnes, là, ils vont vite te reconnaître.
Le maillot bleu-blanc-rouge, ça vous change un homme. Ces championnats de France qui auront lieu dans quelques jours, un parcours là aussi sélectif et pas très loin de la maison. Ce serait classe quand même de débarquer sur le tour avec le maillot bleu-blanc-rouge, Louis.
Ah bah oui, carrément. Après, c'est un gros objectif pour moi, ouais, le championnat de France. Donc, ça serait classe et ça serait un rêve aussi parce que maillot bleu, blanc, rouge, je pense que c'est un rêve pour tout Français dans une carrière.
Le problème, c'est que tu fais partie de l'équipe Intermarché Wantis. Du coup, vous êtes combien de coureurs français à disputer justement le championnat de France au sein de ton équipe?
On sera que 4.
Vous serez 4. Ouais. Donc, ça veut dire que vous êtes loin de l'armada Decathlon, l'armada Groupama, Cofidis et autres. Jérôme, est-ce que ça compte, ça, dans un championnat de France, quand tu, justement, te retrouves, non pas face à 8 coureurs, mais face à... Là, ils peuvent venir en nombre illimité, hein, les Decathlon et les Groupama.
Alors, Louis, est-ce qu'on peut trahir des secrets? On va pas tout dire, mais ça fait quelques jours maintenant et quelques semaines que je discute avec lui. Et ce championnat-là, il est fait pour des mecs isolés. Parce que c'est difficile et parce que, justement, beaucoup d'équipes françaises sont en grand nombre, mais ils ont personne qui domine. Alors, il y aura Romain Grégoire, c'est une certitude, qui sera l'homme à battre sur ce genre de parcours. Décathlon AG2R qui a une énorme équipe. Mais nous, on a fait la même avec Sylvain Chavanel à Boulogne. On était deux au départ et on a gagné quand même. Parce que le circuit des Herbiers avec le Mont des Alouettes à chaque tour, il est très difficile. Il est extrêmement difficile et il laisse peu place à une stratégie d'équipe quand il n'y a pas un mec qui domine. Par contre, un mec qui est très fort et qui court très bien et qui est très, très intelligent, ce qui sont les qualités de Louis, il peut facilement tirer son épingle du jeu à partir du moment où on court très bien. Il sait qu'il n'aura pas le choix, qu'il faudra courir au millimètre. Il a Hugo Page avec lui, qui sera aussi un coureur qui est capable de faire un bon résultat, même si c'est peut-être un peu difficile. Mais il tombe l'année où il marche le mieux, où il n'est pas le favori et où le parcours correspond à ses qualités. Donc évidemment, moi, tu me dis quel est ton favori pour le championnat de France, je mets Louis Barret, évidemment. Par contre, il faudra laisser faire les autres. Mais évidemment que ce coureur-là, que Louis, a toutes ses chances d'être champion de France sur ce type de parcours. Parce que, encore une fois, ça va être très, très difficile.
Bon, Louis, t'as convaincu là aussi, Jérôme? Tu sais que tu nous as dit tout à l'heure que Vingegaard allait gagner le Tour de France. Hein, donc
c'est possible.
Ouais.
C'est possible, il monte en pression aussi, donc on verra bien.
Donc Louis Barret, champion de France, Vingegaard, maillot jaune à l'issue du tour. On signe là, non ? On est d'accord pour tout ça ?
Ah, moi je signe, rien que la première ligne je signe, le reste je m'en fous, mais la première ligne je signe.
Bon, eh ben, écoute Louis, on va te souhaiter une belle préparation. Qu'est-ce qui va se passer justement jusqu'à ce championnat de France ? Tu es rentré chez toi, tu repars en stage, comment ça se gère cet avant championnat de France et avant Tour de France ?
Ouais, je suis rentré chez moi hier soir assez tard. Et là, ça va être un peu de récup après la semaine du Dauphiné. Et ensuite, je vais faire un petit bloc d'entraînement et je vais recourir en Italie. Je fais Giro della Pennino mardi prochain, la semaine prochaine, et championnat de France directement dans la foulée. Donc ça sera que de la récup ensuite.
Voilà, beau programme avant le départ du Tour et avant ce championnat de France. Donc on a tous coché, hein, on a tous coché. François, t'as compris ce qu'il faut faire, hein, il faut aller mettre un petit billet sur
il m'a convaincu.
Moi aussi, je suis convaincu. Merci Louis, merci d'être venu dans Grand Plateau. On te souhaite un bel été magnifique avec toutes ces belles courses, ton premier Tour de France et donc les championnats de France qui débutent et qui auront lieu dans quelques jours à peine. Merci Louis.
Merci beaucoup.
Merci également à Jérôme de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné plein de pistes pour la suite. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grand Plateau. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ciao, ciao.